Le temps ne veut plus rien dire, ma tête tourne, 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 comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jour, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vous criez dans cet univers des humains? La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand vous pouvez cantiner, je dois vous clôner. Mais quel est le mot de votre prétendue liberté, celle qui tous les jours vous envoie bosser? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai mon pauvre Zébaron.
On va vous massacrer.
Bruit de tôle. Une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique, à la mode, pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer, récupérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Et bonsoir tout le monde, et donc au sommaire de ce bruit de tôle du 11 septembre 2014, le 11 septembre, vous savez, le coup d'état au Chili, la guerre du Golfe, la première, et l'attentat du siècle passé, et bien au sommaire donc, troisième partie du journal d'Imaya, c'est un journal de détention qui est publié par épisode dans l'Humain, et dont on fait lecture ici. Et puis on continuera avec des brèves, alors pas mal d'actions de solidarité ou d'attaques, voire même contre le carcéral. Et ça nous fera voyager à Anvers, à Valence, à Berlin, en Algérie et jusqu'aux USA. Et puis nous terminerons par un entretien avec Dieng Tamine. Alors, Ramat Dieng, je veux dire, c'est la sœur de Lamine Dieng. Lamine Dieng, il est monté dans un fourgon de police un jour du 17 juin 2007. Et on ne l'a jamais revu vivant depuis. Donc cet entretien avec sa sœur qui est tiré d'un journal qui vient à peine de sortir, qui dans la version papier d'ailleurs je crois n'existe même pas encore, qui s'appelle Jeff Clack. Voilà pour aujourd'hui. On peut nous appeler, merci de le faire pendant les morceaux musicaux, au 05 61 53 36 95, mais pour des raisons techniques vous ne passerez pas à l'antenne. Un jour vous verrez, la table sera réparée.
Corse plante, une lune noire. Vaisseau pirate sorti des lames de l'étoile noire. Croisement d'épée, tête de mort sur l'étendard. Le crépitement d'une mer en feu qui se répand sur les boulevards. Dynamite statue et pont élevé à leur gloire. Arrache sans trêve le nom des rues, de leurs bourreaux, de leurs colons, des assassins, de leurs armées, des inquisiteurs incantatoires. Sans lumière sous la lune noire, opérant elle une marée noire. S'approche en cercle et brûle les guets des citadelles des tours d'ivoire. Le vin du pain des affamés gonfle les rangs au chaos des rues comme firmament. Et la vengeance comme fermamente s'avance sanglante sous la lune noire. Réminiscence de triste mémoire. Le vaisseau fantôme armé des ombres s'avance des larmes de l'Occident carbonisé à l'Excitant. En silence sous la lune noire,
hissé le pavillon noir.
Que résonnent les cris de Cusco,
hissé le pavillon noir.
Que résonnent les cris des esclaves,
hissé le pavillon noir.
Que résonnent les cris et les sanglots,
hissé le pavillon noir. hissez le pavillon noir.
Que résonnent les cris des bûchers,
hissez le pavillon noir.
Que résonnent les cris de Gorée,
hissez le pavillon noir.
Qu'il soit vengeance puis liberté,
hissez le pavillon noir.
Toujours le même décor, cette lune noire. À l'horizon, cette terre et ces murailles qui s'éloignent. Sur la mer, un bateau qui s'évade, des armées qui s'écartent, des canons qui se rechargent. Mais la victoire a choisi son camp depuis longtemps. Ira vers la lune noire, détruisant les armées des tyrans, ne leur offrant qu'un répit illusoire. À peine le temps pour ces soldats de se souvenir des exactions perpétrées sur leurs semblables. À force de sentir et sans blâme, fallait bien qu'ils périssent dans les flammes. Soudain leur monde s'embrase et pas dans le calme. Soudain les ruines s'entassent, toujours pas de calme. La lune noire a depuis longtemps affiné sa focale, rempli ses cales et mis le feu aux poudres à temps. Prochaine escale,
un monde meilleur, faut pas que ça traîne, la suite attend.
En silence sous la lune noire,
hissez le pavillon noir.
Que résonnent les cris des sans-voix,
hissez le pavillon noir.
Que résonnent les cris des combattants,
hissez le pavillon noir.
Que résonnent les cris des dissidents,
hissez le pavillon noir. Hissez le pavillon noir.
Que résonnent les cris des condamnés,
hissez le pavillon noir.
Que résonnent les cris des damnés,
hissez le pavillon noir.
Qu'il soit vengeance puis liberté,
hissez le pavillon noir.
Un vaisseau glisse sur les flots noirs. Les uniformes de sa majesté sont illusoires. Les vagues se brisent sur la jetée. Rejetés au large seront les corps des sbires de l'anti-liberté. La piraterie est le symbole d'un monde uni. Démocratie, antisexisme, antiracisme et pas de pays. Je suis l'héritière de marée ride. Pierre par pierre on démontra les monuments et les prisons érigés par le patriarcat. La rage des femmes ne prend pas de rides. Quand les porcs ont tous les droits sur les trottoirs, notre vengeance sera glaciale et exutoire. Les milliers de viols, d'humiliations, de genoux au sol et d'injonctions seront unis sous la lune noire. Et dans un siècle, peut-être nos enfants seront unis sous le drapeau noir. Ça fait quatre siècles que les amants de l'utopie inondent les ponts des navires de leur sang mêlé. En silence sous la lune noire,
hissez le pavillon noir.
Que résonnent les cris des pogroms,
hissez le pavillon noir.
Que résonnent les cris des indiens,
hissez le pavillon noir.
Que résonnent les cris du peuple rom,
hissez le pavillon noir. Hissez le pavillon noir.
Que résonnent les cris des violets,
hissez le pavillon noir.
Que résonnent les cris des pendus,
hissez le pavillon noir.
Qu'il soit vengeance puis liberté,
hissez le pavillon noir.
Alors, on commence cette émission de Bruit de tôle avec la troisième partie du journal de détention d'Inaya, donc, qui est paru sur le site de l'Humanité, et dans lequel elle aborde les différents aspects de la vie carcérale. Travailler en prison, payer sa dette à la société ou aux autres, ça commence bien, ou aux entreprises privées. Il est difficile d'occuper toutes les détenues et, comme le travail est très peu rémunéré, c'est très difficile pour celles qui ont la chance de travailler d'obtenir un salaire suffisant pour subvenir à leurs besoins. On peut travailler soit au service général, soit à l'atelier. Le service général, c'est contribuer à l'entretien de la prison, faire le ménage, les repas, les servir, etc. En général, là, on ne gagne pas au-delà de 250 à 300 euros par mois. Mais c'est déjà beaucoup mieux qu'aux ateliers, où on effectue du façonnage et c'est payé à la pièce, un prix misérable. De grosses entreprises comme Orange, BNP Paribas, Cartier, Médecins Sans Frontières utilisent le travail des détenus contre un salaire dérisoire. On touche 4 euros pour 1000 pièces insérées dans un plastique, par exemple. Le travail est difficile. J'ai souffert de manière récurrente des odeurs et des poids à soulever à l'atelier. Même quand j'avais le dos brisé, je n'ai jamais vu de médecin du travail. J'ai eu tellement mal que je ne pouvais plus me lever. J'ai demandé à passer une radio. Et au bout d'un moment, j'ai pu aller faire cet examen, mais je n'ai jamais su quels avaient été les résultats de la radio. On m'a dit que si on ne me convoquait pas, c'est que tout allait bien, mais j'aurais voulu avoir plus de détails. La santé des travailleuses n'est pas respectée. Le contrat stipule que les contrôleuses d'atelier, le poste que j'occupais, doivent toujours porter des chaussures de sécurité et mettre des lunettes dans certains cas. Mais les masques, lunettes, il n'y en avait pas. Et toutes les filles qui travaillent sur table n'en portent pas. Il y a aussi des odeurs difficiles à supporter, type ammoniac, susceptibles de rendre malades les filles qui les inhalent. Il y a peu de formations professionnelles en prison. De temps en temps, une fois par an environ, une formation en peinture, rémunérée entre 200 et 300 euros, est proposée. Elle dure 3-4 mois maximum. Le premier mois n'est pas payé. On travaille sans masque ni protection. Seulement une charlotte transparente sur la tête et beaucoup de poussière dans les yeux. Il y a énormément d'abus. le droit du travail n'existe pas en prison. Au service général, il n'y a pas de limite clairement établie. On demande aux détenus d'aller laver les toilettes des surveillantes. Les filles qui sont au service général ne devraient pas être envoyées dans les chambres des surveillantes qui sont quasi à l'extérieur. Mais elles doivent faire le lit des surveillantes, leurs toilettes. Une fois, pour les récompenser, on leur a donné des vieilles casseroles, des poêles, parce qu'elles avaient été envoyées arracher des herbes dans la cour. C'est de l'exploitation. Mais les filles ne bronchent pas parce que sinon elles sont virées. L'administration pénitentiaire n'a aucune justification à donner lorsqu'elle veut enlever son travail à une détenue. Et la personne en question n'a rien à dire. Une fille a dû nettoyer la cellule d'une fille qui s'est suicidée alors qu'elle était sa collègue de travail. Le service général est surnommé les esclaves de la prison. Les filles travaillent 7 jours sur 7. Elles n'ont souvent pas de jour de repos le dimanche. Même le planning surchargé donné au départ n'est pas toujours respecté. On peut les appeler à tout moment de la journée, même pendant leurs heures de pause. Il y a d'autres abus, comme cumuler les postes pour avoir le même salaire. Quand la direction demande de cumuler les postes, on ne peut pas refuser. La bibliothécaire a aussi été écrivain public et son salaire n'a pas changé.
Mon combat pour pouvoir suivre des études, se former en prison, est un parcours du combattant. Avant d'être incarcéré, j'ai connu des problèmes d'orientation, mais j'ai tout de même poursuivi des études. Après la troisième, je suis allé voir la conseillère d'orientation, qui m'a dit de faire un BEP parce que je ne pouvais pas passer en filière générale ou technologique. J'ai eu l'impression de devoir choisir un BEP complètement au hasard pour finalement rentrer en BEP carrière sanitaire et sociale. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants très bien, qui m'ont motivé, qui m'ont dit que j'avais les capacités pour poursuivre au-delà du BEP. Après le BEP, j'ai donc fait une première d'adaptation, puis une terminale normale, et j'ai obtenu mon bac sciences médico-sociales. J'étais en école d'infirmière lorsque j'ai été incarcéré. Quand je suis arrivé dans la première maison d'arrêt, ce sont les détenus qui m'ont informé des possibilités de suivre des cours, et qui m'ont expliqué ce que je pouvais faire, et surtout qu'il fallait que je me bouge parce que chaque démarche est compliquée et difficile. J'aimais assez les cours dans cette maison d'arrêt, il y avait des cours basiques, mais certains étaient plus poussés, des cours d'actualité aussi. Il y avait notamment un très bon prof, très à l'écoute, motivé, pas ennuyeux, toujours prêt pour aider à des démarches, qu'elles soient liées à l'enseignement ou plus personnelles. Là-bas, il y avait pas mal de filles qui faisaient des études. Malgré tout, la plupart de celles qui en font, ce sont des filles qui étaient déjà scolarisées avant. Mais au moins, matériellement, c'était possible. Si j'étais resté là-bas, j'aurais pu faire des études supérieures sans doute. Le problème, c'est que quand je suis arrivé, je n'étais pas du tout prête psychologiquement, je pleurais tout le temps, je pensais tout le temps à mon affaire, à mon procès à venir. Je ne savais pas du tout quelle peine allait être la mienne et je me demandais à quelle sauce j'allais être mangé. C'était vraiment dur de s'investir dans des études avant d'être jugé. Moi, j'ai attendu 3 ans avant de passer en jugement. 3 années de détention préventive à ne pas savoir du tout ce que j'allais prendre. Ça enlève complètement le courage de certaines filles, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui rêvent complètement et qui vont tout le temps dire qu'elles vont sortir la semaine prochaine. Moi, j'étais réaliste, je savais que j'en avais pour un bout de temps. Dans ma seconde maison d'arrêt, j'ai voulu suivre à nouveau des cours de l'éducation nationale, mais c'était beaucoup moins bien. D'abord, c'était une maison d'arrêt trop grande, avec trop de détenus. Du coup, je me retrouvais à côté de gens qui ne savaient pas lire et écrire alors que j'avais passé le bac. C'est impossible de faire un cours à des gens d'un niveau aussi différent. Il n'y avait pas assez de profs pour faire des cours de différents niveaux. Dans la plupart des établissements, les formations proposées par l'éducation nationale, c'est niveau alphabétisation ou apprendre à compter. Il n'y a rien pour les autres. En plus, c'était mal organisé. C'était jamais la même heure suivant les cours, ça changeait tout le temps. De plus, je me suis mis à travailler à l'atelier et c'était pas organisé pour qu'on puisse à la fois suivre des cours et travailler. Fallait donc choisir l'un ou l'autre. Du coup, j'ai voulu m'inscrire au CNED pour faire un BTS. Je voulais vraiment me remettre aux études. Dans cette seconde prison, je me disais que j'allais y arriver. Là, j'avais une cellule seule, contrairement à ma première maison d'arrêt. Parce que c'est très difficile de travailler à plusieurs en cellule. Vous pouvez être avec une fille violente, droguée, qui est jalouse, ou tout simplement qui veut écouter de la musique, regarder la télé, dormir quand vous avez besoin de la lumière pour travailler. Enfin, c'était pas possible. Donc là, je voulais faire un BTS en relations clients parce que j'aime beaucoup l'économie depuis le lycée et que le marketing m'intéresse. Je voulais aussi sortir de ma filière SMS, sciences médico-sociales, qui m'avait été un peu imposée sans que j'aie trop mon mot à dire. et pour m'inscrire au CNED, il fallait que je passe par la professeure de l'éducation nationale en prison. Et elle, ça a été vraiment une vraie conne. Elle m'a dit, vu qu'on ne savait pas combien de temps j'allais prendre, c'était pas la peine de m'inscrire pour des études. Elle refusait d'inscrire des prévenus, donc des personnes pas encore jugées, au CNED, même si elles étaient très motivées. Pour les prévenus, elle ne réinscrivait que les filles déjà inscrites dans une autre maison d'arrêt. Ça m'a vraiment énervé, je me rappelle, j'ai attendu 3 ans avant d'être jugé. Alors que je suis motivé, que je veux reprendre mes études, on me dit que non, il faut que je regarde le plafond pendant 3 ans. Voilà, la prison ne nous aide pas, nous met des bâtons dans les roues, et il faut contourner les bâtons. J'ai essayé de me faire inscrire par un membre de ma famille, mais ça a été compliqué. Je me suis inscrit directement, mais le courrier de réponse, favorable, a été envoyé à la fameuse prof. Moi, je savais pas que ça allait forcément passer par elle. Du coup, elle m'a reproché de m'être inscrite quand même, alors que ça montrait quand même ma motivation. Et elle a de nouveau refusé de m'inscrire. C'est mieux d'attendre, a-t-elle prétexté.
Contourner la prison, Éducatel et l'association de la seconde chance. J'ai continué à chercher des moyens pour reprendre mes études et une copine m'a dit qu'elle s'était inscrite à Éducatel. Cependant, contrairement au CNED, il n'y a pas d'aide financière pour s'inscrire à Éducatel. Je voulais faire un BTS, vu que j'avais déjà le bac, mais c'était trop cher, 3000 euros, alors que la formation niveau bac était à 1700 euros. C'était déjà très cher. Certes, je travaillais à l'atelier et je gagnais un peu d'argent, mais il fallait aussi que j'assure ma subsistance en prison, que j'aide ma famille financièrement et que je paie les parties civiles. 1700 euros pour une personne incarcérée, c'est vraiment énorme. Encore une fois, je me suis battue, renseignée, et j'ai entendu parler d'une fondation qui pouvait financer des projets, la fondation de la deuxième chance. Je les ai contactés pour savoir ce qu'il était possible de faire. Ils m'ont dit que je devais faire un dossier, que je devais prouver par des supports que j'avais effectué des démarches et que je n'avais pas pu être aidée. C'est simple, j'ai pris toutes les lettres de refus. La CPIP, Conseil pénitentiaire insertion probation, service social de la prison, à qui j'avais demandé un rendez-vous avec Pôle emploi, refus parce que je n'étais pas encore jugée, refus de l'éducation nationale pour m'inscrire au CNED. J'ai expliqué mon parcours de vie. J'ai fait tout toute seule. J'ai eu une réponse favorable. On m'a dit que j'allais avoir un parrain qui allait venir me voir et que suite à sa visite, j'aurais un avis définitivement favorable ou non. J'étais très heureuse et motivée. J'attendais cette visite avec impatience. Je me suis bien habillée pour recevoir ce monsieur, chemise, etc. Et là, je me suis retrouvée face à un gros pervers, et je pèse mes mots, qui venait abuser de la détresse de gens en difficulté. D'abord, il m'a dit d'emblée que c'était la première fois qu'ils acceptaient une personne détenue et a commencé à se plaindre longuement parce qu'il avait dû faire beaucoup de RER, qu'on l'avait mal reçu alors qu'il était important, décoré, etc. Je me sentais très mal. Et puis, il me fait des remarques à caractère sexuel et pas des plus subtils. Il m'a dit textuellement que j'étais mignonne, que j'avais une belle poitrine et a commencé à me raconter qu'il avait vu une femme à l'entrée avec une poitrine énorme et qu'en plus, elle n'avait pas de soutien-gorge. Il me regardait vraiment comme un pervers et je ne pouvais rien faire parce que je devais avoir sa signature pour que ma formation soit financée. Et puis, il a enchaîné en me faisant des leçons de morale sur mes mauvaises fréquentations. Entre deux remarques salaces. J'étais très choquée et outrée et en colère qu'on me traite comme ça. Et ce qui m'a encore plus choquée, c'est la réaction des filles quand je leur ai raconté ça après. Elles m'ont dit toutes que j'aurais dû jouer le jeu pour voir s'il y avait moyen de gratter. À la deuxième visite, une fois qu'il avait signé, j'y suis allée en jogging et puis je l'ai recadré en lui disant qu'il n'avait pas à me faire ce genre de remarques. Il a eu l'air gêné et m'a dit que c'était un test. Il ne m'a plus fait de remarques graveleuses, mais n'a pas arrêté de me donner des leçons et de se plaindre. C'était petit, étroit. Il fait chaud. Je suis mal reçue, alors que je suis directeur de telle banque, parrain de ceci, chevalier de cela. J'ai presque regretté d'avoir demandé cette bourse. Je me sentais mal d'être obligée de le voir, mal de me sentir obligée de m'habiller différemment. Ça m'a vraiment mise très mal à l'aise et j'ai serré les dents parce que je tenais à mon projet d'études. Et aussi parce que je savais que je n'allais pas me laisser faire et que je n'allais pas le voir toutes les semaines. J'ai malgré tout pu commencer ma formation qualifiante d'assistante marketing. J'ai eu beaucoup de difficultés à réceptionner mes cours, parce qu'il est interdit d'envoyer des colis aux détenus. Les enveloppes concernant mes livres étaient renvoyées à Éducatel et on ne me l'a pas dit tout de suite, j'ai dû trouver une solution. Pour le coup, je me plains beaucoup d'elle, mais c'est ma SPIP qui m'a aidée. Elle récupérait les enveloppes et me les donnait. Mais ça a quand même mis 6 mois entre le moment où je me suis inscrite et mes premiers cours. Le niveau de la formation était très intéressant. Ce n'est pas du tout une corvée pour moi, au contraire, c'était très motivant. Mais j'avais des difficultés matérielles, c'était par correspondance, donc je ne pouvais pas poser de questions à quelqu'un. Je n'avais pas Internet, et pour beaucoup de questions comme pour le CNED, on est censé chercher des réponses sur Internet. La bibliothèque de la prison est très maigre, très pauvre, il y a surtout des romans, des livres scolaires s'arrêtent au lycée. Ce qui m'a aidée, c'est quand j'ai introduit illégalement un téléphone avec Internet, j'ai pu un peu travailler comme ça.
On m'avait conseillé, pour ma formation marketing, de faire de l'anglais. Là encore, c'est ma SPIP qui m'a conseillé. Elle m'a dit de demander une génépiste. Alors le Génépi, c'est une association de bénévoles, d'étudiants pour l'enseignement aux personnes incarcérées. Parce que le niveau d'anglais était trop bas pour moi. Ma génépiste venait régulièrement, et ça s'est très bien passé. Je sais qu'on reproche au Génépi d'être une association subventionnée, utilisée. D'un côté, c'est vrai. Ça donne une justification à l'administration pénitentiaire pour ne pas payer plus de professeurs parce qu'il y a des bénévoles qui viennent. Mais cette présence de gens de l'extérieur est quand même très importante. C'est un vrai moment d'évasion, parce qu'on sent tout de suite que les génépistes n'ont rien à voir avec la pénitentiaire. Ça se ressent quand le ou la génépiste se présente et explique pourquoi il est là. Moi, je me suis demandé pourquoi ma génépiste venait me voir, pourquoi prendre du temps, bénévolement en plus, pour voir des personnes comme nous. On est tellement mis de côté, négligé, qu'on se demande pourquoi des gens peuvent penser que c'est important de nous voir. Du coup, c'est vraiment réconfortant. Et moi, j'avais plein de problèmes de discipline avec l'administration pénitentiaire. Mais avec ma génépiste, ça s'est toujours bien passé. Quand tout le monde disait qu'on ne pouvait pas me faire confiance, etc., ça faisait du bien de voir régulièrement quelqu'un qui me faisait confiance. De plus, ma génépiste m'a dit que l'association était indifférente au passé pénal des personnes détenues. Et par conséquent, je n'ai parlé de mon affaire que quand j'ai voulu, comme j'ai voulu, alors qu'en prison, on nous renvoie toujours notre affaire en pleine face. Par contre, ce qui est scandaleux, c'est que ma génépiste m'a dit que plusieurs membres de l'administration, dont des SPIP, ont voulu plusieurs fois lui parler de mon affaire et lui raconter ce que j'avais fait, alors qu'elle n'avait rien demandé. Et on a même essayé de la décourager, en lui disant que mon affaire était grave, que je n'étais pas quelqu'un de bien, etc. J'ai vraiment l'impression de m'être battue contre la prison pour pouvoir faire des études. Même si ma SPIP m'a aidée, elle ne m'a ni encouragée ni valorisée. Ce sont les autres détenus qui m'ont soutenue, qui m'ont dit que j'avais du courage de faire ça. Ce qui est dur, c'est d'avoir la motivation à long terme. On peut la perdre à force de voir que des portes se ferment. Et surtout, en prison, on est tout le temps dépendant, qu'on le veuille ou non. On doit attendre et faire ce qu'on nous dit de faire. Et là, d'un coup, pour les études, il faut être très autonome. C'est paradoxal, et c'est pour ça que si peu de personnes vont jusqu'au bout.
Con el chivato que fue a Pucamar, tumbuchas no le quitaron la vida y así los cuatro pudieron najar. Na, 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 na. Tú fuiste el que lo mataste, sí, y ya no puedo negarme. Lo maté en aquel momento al no poder controlarme. Na, na, na. Na, 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 na
yo entre rejas y con mis niños solos en la calle. Virgen bendita de la Macarena, piádate de ellos que no son culpables. En un momento de locura perdí la noción del tiempo. Madrecita de mi vida, yo con 30 años encima, aquí quedará mi cuerpo.
Quelques brèves pour rappeler que si la prison est un concentré de société, il y a toujours des ennemis de la société. Par exemple, ça s'est passé au mois de juin, mais la revendication est tombée à peine là ces derniers jours. Ça s'est passé à Anvers, Antwerpen en flamand, donc c'est en Belgique. Le chantier de la nouvelle prison psychiatrique d'Anvers a donc été la cible d'un sabotage incendiaire. Bilan de l'accident, 3 grues mobiles et 1 générateur électrique détruits par les flammes. Selon l'entreprise de construction Denis, qui effectuait les travaux, les dégâts sont importants. Le feu a été mis à 4 endroits différents, comme spécifie un article de la presse locale, La Libre Belgique. Les travaux pour réaliser ce centre psychiatrique légal ont commencé en 2013. L'État belge prévoit d'y enfermer 160 prisonniers internés. Cette nouvelle prison fait partie de ce qui s'appelle en Belgique le Master Plan, qui vise à construire 13 nouvelles prisons. La lutte contre la construction des nouvelles prisons s'exprime donc aussi à travers des actions de sabotage. Mieux encore, c'est une lutte qui se projette dans l'action directe pour détruire ce qui rend possible ces prisons. Tout révolté déterminé peut se donner les moyens pour attaquer les entreprises qui les construisent, les chantiers même, les architectes qui les dessinent, ça s'est déjà vu, les banques qui les financent, ça s'est déjà vu aussi. Ces attaques ne nécessitent pas d'être énormément de personnes. Quelques gens de confiance suffisent, et même tout seul, c'est possible. Au-delà des dégâts qu'elle cause à l'ennemi, elle contribue à répandre la révolte, à semer des graines de rejet, à donner de la force et du courage à ceux qui se battent contre ce monde de barreaux et de barbelés. Ça, c'est la fin, vous avez compris, de la revendication. J'en profite pour signaler qu'il existe toujours disponible, on peut le trouver dans les infokiosques, un excellent livre qui s'appelle Brique par brique et qui raconte 15 dernières années de lutte anticarcérale en Belgique, et que précisément en Belgique, il y a une demi-douzaine de personnes qui sont dans les emmerdes, qui sont, comment dire, contrôlés, qui ont été amenés chez la police, mais qui ne sont pas inculpés puisque leur avocat n'a pas accès au dossier pour ses actions. Voilà, c'est Ubu en Belgique.
Et en France, un appel a été lancé contre toutes les prisons à Valence, puisque courant 2015, une nouvelle prison est censée y ouvrir, être ouverte dans le quartier de Briffaut. 2 maisons d'arrêt et un quartier maison centrale. Cette prison enfermerait 456 personnes, presque 3 fois plus que la maison d'arrêt actuelle. Donc l'appel nous dit que si les anciennes prisons sont généralement surpeuplées, insalubres et immondes, être enfermé dans les établissements pénitentiaires modernes n'est pas mieux. De nombreux prisonniers ont raconté l'enfer de l'isolement sensoriel et humain et du contrôle permanent qui rend fou dans les nouvelles prisons. Pour contrer la surpopulation, il ne faut pas construire de nouvelles prisons, mais vider celles qui existent déjà, nous dit l'appel. Alors aujourd'hui, de plus en plus de faits peuvent amener en prison et les peines sont toujours plus longues. Tiens, ça rappelle un texte qu'on a lu en début d'émission. Les aménagements de peines, contrôles judiciaires en tout genre, tiges, soins obligatoires, amendes et autres obligations durant des années ne sont que des peines supplémentaires, qui s'ajoutent aux instruments de répression et de punition que la justice possède déjà. Tout ça pour enfermer et soumettre toujours plus, car la justice fonctionne avec le système de la carotte et du bâton. Dehors aussi, le monde ressemble à une prison. Caméras, flics et contrôleurs en tout genre veulent soumettre la majorité à la loi du fric, travail, consomme. L'appel rappelle aussi que l'enfermement est un business qui rapporte gros 70 millions d'euros à SPIE Batignolles pour la construction de la nouvelle prison à Valence. D'autres groupes comme GDF Suez, Eiffage, Bouygues, Sodexo, on les connaît, font leur beurre en construisant des cages. Et puis l'appel conclut, il y a 1000 manières et 1000 raisons de s'opposer à une autorité qui enferme. Régulièrement, des prisonniers se révoltent. Dehors, les structures de l'enfermement peuvent aussi être attaquées, pour faire un petit rappel sur la situation belge. Pour vivre libre, sans chef, ni petit ni grand, sans flic et sans fric, contre toutes les cages et les enfermements. Donc c'est l'appel contre toutes les prisons à Valence. Et on va en Allemagne.
Et oui, on va à Berlin, parce que nous sommes une émission internationaliste. Hein.
C'est branché, Berlin.
En plus, c'est branché, oui, c'est magnifique. Donc là, c'est peut-être moins branché, mais bon, c'était le jeudi 28 août, vers 4h du matin, donc à Berlin. Un sabotage incendiaire a paralysé une partie du réseau de la S-Bahn. Donc alors, qu'est-ce que la S-Bahn ? Alors, c'est le métro berlinois. Donc ça principalement touché le secteur sud-ouest de la ville. Donc un conduit de câble a été incendié à l'aide d'un mélange d'essence commercialisée et de deux détonateurs à retardement, nous dit-on. Les dégâts ont été importants, il y a quand même eu 5 lignes de métro à l'arrêt, ce qui est quand même pas mal. Et l'entreprise a dû mener des travaux donc jusqu'au dimanche suivant, donc jusqu'au dimanche 31 août, donc pendant 3 jours, afin de rétablir le trafic entre le sud-est et le centre-ville. Et on signale aussi que les liaisons avec l'aéroport de Schönfeld n'ont pas été épargnées. Vous avez vu la prononciation quand même, Schönfeld.
Schönfeld.
C'est bon.
Et donc cette attaque a été revendiquée par des groupes autonomes contre la politique raciste menée envers les réfugiés qui luttent actuellement pour obtenir le droit de séjour et qui attendent que soit examinée leur demande d'asile par les autorités. Le communiqué dénonce l'existence du racisme et son acceptation par la population berlinoise, préoccupée par son propre confort et qui se fout du sort des milliers de personnes qui tentent de fuir la guerre et ou la misère et traversent les frontières de l'Europe au péril de leur vie.
Et on passe en Algérie. Donc l'information vient de l'organisation Reporters sans frontières qui dénonce ce mercredi 3 septembre la condamnation en appel de Youssef Ould Dada, ce citoyen de Gardaïa qui avait partagé une vidéo montrant des policiers en train de voler. Donc RSF rappelle que Youssef Ould Dada est en prison depuis le 27 mars dernier. Informaticien de 47 ans, il a été condamné le 10 juin dernier à 2 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars algériens pour atteinte à l'intérêt national et outrage à un corps constitué. Et la condamnation donc vient d'être confirmée en appel le 1er septembre. Alors, c'est un blogueur de Gardaïa qui a diffusé, une vidéo qui semble être un flagrant délit de vol commis par des officiers de police. Et donc, il a été condamné, comme on le dit, en appel. Surtout, on voit là-dessus que c'est une sorte d'avertissement aux autres cyberactivistes algériens. Alors, il dit qu'il n'a pas dit son dernier mot, qu'en concertation avec ses avocats et la Ligue algérienne des droits de l'homme, le blogueur Mozabit, puisque c'est la région d'où il est, envisage de se pourvoir en cassation. Mais lundi, donc, à la surprise générale, eh bien, il est retourné à la prison de Shahabet Enichen à Gardaïa, où il a passé les 8 derniers mois. Ses avocats s'attendaient à sa libération, étant donné que les accusations retenues ne tiennent pas. Mais le tribunal de Gardaïa a confirmé le jugement émis en juin dernier contre ce cyberactiviste. Il écope donc de 2 ans de prison ferme et d'une amende de 100 000 dinars, on a dit. Et il est condamné sur la base de l'article 96 du Code pénal pour atteinte à l'intérêt national et outrage à un corps constitué. Et en cause, une vidéo de plus de 3 minutes qui montre 3 policiers en uniforme sortant d'un magasin de la ville d'El Guerrara, à environ 115 km au nord-est de Gardaïa, les mains chargées de cartons. Cette scène a été filmée en novembre 2013, en marge des affrontements intercommunautaires en cours dans la vallée du Mzab, et aurait pu être une pièce à conviction contre les agents de police dans un procès pour vol. Et elle s'est finalement retournée contre Youssef. Dans les rangs de la défense, donc étonnement et désolation à l'écoute du verdict. Le dossier est vide, mais la cour a vu autre chose. Les avocats critiquent une condamnation donc lourde et disproportionnée, sachant que leur client n'a même pas filmé ces images, puisqu'il a fait simplement les diffuser par Internet. Alors, la Ligue des droits de l'homme a demandé une seconde expertise de la vidéo, car la première avait été effectuée par les services de police.
Donc,
ils disent qu'on ne peut même pas être juge et partie. Mais la demande a été rejetée. Donc, cette affaire soulève la question du droit à la liberté d'expression et de diffusion d'informations sur Internet. Pour la première fois en Algérie, un blogueur est condamné à une peine de prison ferme pour le contenu d'une vidéo qu'il a aidé à diffuser. Généralement, dans des cas similaires, les accusés s'en tirent avec une peine de prison avec sursis. Alors, pourquoi est-ce condamné si sévèrement ? Parce que des agents de police étaient mis en cause directement, répond sans embâche le secrétaire général, donc, pour qui le verdict de ce procès aurait pour effet de renforcer eh bien, le sentiment d'impunité des officiers de police dans le pays. La condamnation de Youssef à une peine de prison ferme est également un avertissement qui est lancé donc aux autres blogueurs qui auraient cette mauvaise idée. C'est une intimidation, une menace contre les personnes qui diffusent des informations sur Internet. Dorénavant, on ne pourra plus mettre en cause des agents de l'État sur le net sans risquer eh bien, de faire appel, de se retrouver face à l'appareil judiciaire et surtout d'être condamné. Quoi.
Ouais, ça rappelle ce qui se passe au Maroc dont on parlait trois semaines. Là, oui. Pareil, des militants qui se font enfermer parce qu'ils se font tabasser par les flics et qu'ils le disent sur Internet ou ailleurs.
Ce qui n'est pas encore arrivé en France, mais enfin, je rappelle que le ministère de l'Intérieur il porte plainte régulièrement pour outrage ou contre des gens comme Copwatch qui les filment, etc. Quoi.
En parlant de Copwatch, donc, on n'est pas loin de l'information qui va suivre sur l'observation de ce que font les flics. Hein.
Oh ben, c'est très simple, vous avez parlé donc, la semaine dernière des émeutes de l'été, c'était 15 jours d'émeutes à Ferguson. Ferguson, donc, cette ville de la banlieue de Saint-Louis dans le Missouri, nous rappelons que le Missouri c'est le dernier état des États-Unis à avoir aboli l'esclavage. Comme quoi il y a des habitudes qui se perdent pas et que 63% de la population est noire. Et donc là, bon, c'était Michael Brown, 18 ans, qui avait pris 6 balles dans la tête alors qu'il était à 10 mètres du flic et donc 15 jours d'émeute. Et on en profite pour une petite étude pour vous dire que la police américaine tue à peu près 400 personnes par an. Et la majorité, évidemment, sont des gens qui sont soit des latinos, soit des noirs de peau. Ça n'arrive pas qu'aux États-Unis. On compte à peu près une dizaine par an en France de la part de la police. Par exemple, là, ça n'a pas donné lieu à des émeutes. Je vous donne juste un petit exemple. Le 29 juillet dernier, c'était à Montgeron, dans l'Essonne. C'était Loïc Loïse, un jeune réunionnais. Donc on suppose qu'il n'est pas blanc, qui s'est pris une balle de la part d'un gars de la BAC parce qu'il portait une arme coupante. Alors une arme coupante, il avait une bouteille à la main, il était à 15 mètres du flic. Voilà ce qui s'est passé. Je vous rappelle juste le cas pour vous dire qu'il est mort à la Ferté-Saint-Aubin. Louis Louise, il est mort d'un taser, pardon. Lui, c'est... il est mort du flic. Son père a pu discuter avec un témoin de la scène. Et à aucun moment, mon garçon n'a essayé de les menacer ou de les agresser. Oui, il était sous. Oui, il savait pas ce qu'il disait. Mais la bagarre était finie. Il était retenu par un copain. On lui a tiré dessus, tel quel. Mmh. Ils l'ont laissé au sol inconscient pendant 20 minutes avant que quelqu'un puisse s'approcher de lui. Voilà l'exemple de le contrebande, le coup à la France. De toute façon, on y revient après dans le sujet suivant, puisqu'il s'agit exactement de ça. Après, une petite pause musicale.
Pour les papiers, parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Je vais me marier avec un nuisible ventilé, j'en bien tremble. Parce que l'amour c'est bien possible, pour montrer ce qui nous rassemble. Je vais me marier, j'ai pas d'autre idée, c'est la seule chose qui me reste à faire. Donner la vie en rose à un expulsé, parce que là-bas y'a une guerre. Je vais me marier en robe blanche avec un arabe à moustache. Et je crierai, vive la France et ses cagoules sans jeu de cache-cache. Puisqu'à l'arquette on te met des baskets pour barrer vite. La nationalité je la raquette, moi j'ai le sens civique. Ah, je vais me marier, on fera la noce dans un carrosse en R5, on roule notre bosse, rien dans notre poche et on se vaut sur les contraintes. Je vais me marier pour le meilleur et pour le pire, pour emmerder de tout mon cœur hein, la préfecture qui a la couleur te fait sortir. D'un simple trait de signature, je vais me marier sans living room. On fera semblant avec deux brosses à dents. Si ça sonne, on dira salam alaikum. On est noir et blanc et c'est bon. Je vais me marier, divorcer aussi. Pour me marier, me remarier encore. Si ça te dit, si tu t'appelles Abdou Mehdi, je peux peut-être te faire un sort. Parce que j'ai eu la chance à la naissance, les bons papiers, peut-être pas la peau blanche. Mais avec ça, je peux me permettre de donner des baisers. Je vais me marier, c'est mon caprice. Je serai l'ambassadrice de la paperasse. Et je crierai, vive la Suisse, je dégueule les lois mises en place. Je dégueule les lois mises en place. Les lois mises en place. Au référendum, je dirai là, si les temps cassent et le tiroir caisse, serrer un peu pour faire de la place, pour accueillir mon palmarès. Je vais me marier, même si ça doit me coûter 500 000 francs, même si ça doit me coûter 15 000 euros, si je dois faire 5 ans d'emprisonnement pour la liberté. Pour la liberté. J'accepte ces cadeaux et tout en haut de la pièce montée, je brûlerai ton invitation à partir. Je mettrai des drapeaux sur les dagers, les frères par où désobéir. Je dirai mon amour à qui veut l'entendre. Si ça vous arrange, je pourrais bien feindre. Parce qu'elle me vaut bien le libre-échange. S'il veut vivre ici, nul ne peut le contraindre. Dans mon waiting day, sans foi ni loi. Dans ton oreille, une cymbale qui prendra là son plein emploi. En rythme en
nationale. En rythme l'hymne national. On va se marier pour les papiers parce qu'on comprend pas les frontières. Si quelqu'un pourrait nous expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. On va se marier pour les papiers parce qu'on comprend pas les frontières. Si quelqu'un pourrait nous expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre.
Aujourd'hui, donc, 11 septembre 2014, sort un livre aux éditions Sileps, qui sont généralement pas donnés, mais qui ont quand même des ouvrages ô combien intéressants. Un livre qui s'appelle Le Permis de Tuer. Permis de Tuer, c'est un ouvrage d'un collectif. Ce collectif, il s'appelle Angle Mort. Il recueille des témoignages qui publie donc des témoignages de quoi ? Eh ben, de ce que je vous disais il y a un instant, il y a une dizaine de morts tués par la police par an en France, ce qui fait que, enfin, une dizaine de morts connues, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas de famille, qui sont un peu isolés et qui se passent comme ça, ce qui fait que donner un chiffre exact, c'est difficile. Mais on sait que sur ces 30 dernières années, ça fait quand même plusieurs centaines de personnes. Là, c'est un extrait donc de ce bouquin, Permis de tuer, et c'est un entretien qui a été réalisé avec Ramata Dieng. Elle s'exprime sur la mort de Lamine Dieng, c'est son frère. Il a été étouffé le 17 juin 2007 dans un fourgon de police, 2007. Après 7 ans d'attente, le juge d'instruction a rendu son verdict le 24 mai 2014. Suspense, non lieu pour les policiers. Et hop. Et donc, dans cet entretien, Ramata Dieng, comme vous venez d'entendre, tire les leçons de 7 ans pour faire connaître les conditions de la mort de son frère. Première question, peux-tu nous en dire plus sur la façon dont Lamine a été tué ?
En consultant le dossier, on apprend que des policiers de la brigade de nuit du 20e arrondissement ont été appelés pour tapage nocturne à l'hôtel Nado, situé rue de la Bidassoa. Une fois arrivés sur place, ils disent avoir trouvé Lamine caché sous un véhicule devant l'hôtel. L'un des policiers lui aurait alors demandé de sortir de là. Mon frère tente de sortir, mais au moment où il est en train de s'extirper, il est donc toujours allongé, un des policiers dit avoir eu peur de perdre le contrôle de la situation à la vue des mollets imposants de Lamine. Un contre-ordre est alors donné. Il demande à sa collègue de prendre les pieds de Lamine pour le plaquer au sol. Lamine, n'étant pas averti qu'on allait lui faucher les jambes, il s'est évidemment écrasé de tout son poids et a crié. Ce cri a été entendu dans les étages des bâtiments aux alentours, dans la rue de la Bidassoa. Une fois plaqué au sol, les policiers se sont jetés sur lui et ont appelé des renforts. Lamine, que les policiers décrivent comme un démon dans leur déclaration, est menotté au poignet, entravé par des liens de contention aux pieds. Il y avait 3 véhicules, 8 agents, et cette scène a duré une demi-heure au total. Pendant une demi-heure, plusieurs policiers sont sur Lamine, qui se trouve dans un espace restreint entre 2 véhicules en stationnement. On peut imaginer la scène, mais là aussi, on relève des incohérences. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé une reconstitution sur les lieux, de manière à pouvoir visualiser ce qui est faisable techniquement et ce qui relève du mensonge. Mon frère est donc plaqué entre 2 véhicules, ses pieds sur le trottoir, un agent sur ses jambes, 2 agents sur chaque bras et un qui passait d'un côté à l'autre du corps de Lamine sans le contourner. Pendant 30 minutes, il est écrasé sous le poids des policiers, menotté sous la nuque, un bras plié vers le haut, l'autre plié vers le bas. Ils l'ont ensuite porté jusqu'au fourgon de police où ils l'ont posé toujours face contre terre et se sont à nouveau agenouillés sur lui. Dans le fourgon, ils étaient donc sur lui, menottés, avec une ceinture de contention en cuir enlaçant ses chevilles et les mains entravées. Faites le test et vous verrez si vous pouvez vous relever et si vous réussissez à faire autre chose que de tenter de respirer. Pendant qu'ils sont agenouillés sur son corps, dans le fourgon, Lamine vomit. C'est un signal de détresse qui aurait dû les faire réfléchir et les arrêter dans leur action. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Ils ont plié ses jambes jusqu'aux fessiers et ils lui ont mis les chevilles au niveau du postérieur et un policier s'est agenouillé sur lui dans cette posture. Les expertises médico-légales révèlent qu'il tentait de respirer, la tête dans son vomi, son appareil respiratoire en étant rempli après qu'il a désespérément aspiré de l'air. Malgré tout cela, aucun des policiers n'a eu le bon sens de raisonner les autres et d'arrêter.
Alors pour résumer, le juge d'instruction a reçu la version de l'inspection générale des services de police. Il n'a entendu personne. Il a laissé traîner le dossier. Pendant combien de temps ?
Jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut dire que c'est suite à la plainte de la famille que l'instruction a été relancée. Parce que pour eux, c'était bouclé. Notre dépôt de plainte a permis de rouvrir l'enquête et nous a donné accès au dossier et à leur enquête préliminaire. Nous avons demandé à ce que les policiers soient à nouveau entendus et des compléments sur l'expertise médico-légale qui était trop floue. Nous avons alimenté l'instruction du juge en demandant des précisions de la part des médecins légistes sur certains points. Au vu d'éléments incontestables, on s'attendait à ce que le juge les mette en examen. Ça fait 7 ans que ça dure et rien ne se passe. Il ne lance aucune commission rogatoire. Lorsque nous avons demandé une reconstitution, il a refusé de la faire sur le lieu où se sont déroulés les faits, préférant que cela se passe dans son bureau. Que les policiers lui montrent comment chacun d'eux était positionné sur le corps de Lamine en se servant du greffier. Lorsqu'ils ont montré comment ils l'ont menotté, ils n'ont pas réussi à joindre les deux mains du greffier au risque de le blesser, alors que pour Lamine, ils y ont réussi. Ensuite, pour les hématomes relevés sur son dos, ses jambes et ailleurs, ils ont montré au juge comment ils étaient positionnés. Mais la reconstitution n'était pas assez explicite, pas assez révélatrice, dans la mesure où ils ne prenaient pas appui véritablement. Ils ne pouvaient pas, car évidemment le but n'était pas de faire subir précisément au greffier ce que Lamine avait subi. Le plus gradé, qui pèse plus de 100 kilos, a eu énormément de mal à se relever au cours de cette pseudo-reconstitution. Il faut l'imaginer sur mon frère le jour où ça s'est passé. Cette reconstitution a eu lieu en mars 2012, 5 ans après les faits. Concernant l'aspect juridique et l'instruction, durant les 5 premières années, le juge nous a refusé la reconstitution qui était la chose la plus importante à nos yeux. Pour tout le reste, même si ça a pris un temps monstrueux, il a accepté et ça s'est fait. Par contre, une fois que ça arrivait dans le dossier, il n'en faisait rien, il n'en tirait pas de conclusion. On se demande même s'il a lu le dossier, les demandes d'actes, les conclusions, les réactions des avocats. Tout a été fait par écrit, tout est signalé, consigné dans le dossier, et pourtant le juge n'a jamais eu aucune réaction. J'en arrive à me demander s'il a réellement pris connaissance du dossier. Lorsque dans nos entrevues, nous le questionnons bien entendu sur la progression de l'instruction, mais depuis 2010, il nous répond que ce dossier n'est pas prioritaire. Le problème est que lorsqu'il était prioritaire, il ne l'a pas traité.
En 2012, tu es intervenu à propos de violences policières dans le cadre d'une journée sur la question de l'esclavage et des réparations. Alors quel lien établis-tu entre les crimes et le racisme d'État ?
C'est tellement difficile à prouver. Avec le comité Vérité et Justice pour Lamine, j'ai été amenée à rencontrer les militants qui luttent pour obtenir des réparations. Ils sont par exemple à l'origine de la loi Taubira de 2001 qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. C'est en les côtoyant et en m'intéressant à leurs discours que j'ai commencé à analyser réellement ce qui est arrivé à mon frère. J'ai compris que ces pratiques policières sont la continuité d'un racisme d'État qui remonte à l'époque de l'esclavage. Je me suis rendu compte que la police est le bras armé de l'État et qu'elle est là pour réprimer, pour maintenir l'ordre social. La police n'est pas là pour protéger les citoyens, comme je l'imaginais. On nous appose à formatage. On nous inculque l'idée que la police protège toute personne des déviants, des agresseurs et des criminels. Et finalement, je réalise que non, elle ne sert qu'à maintenir l'ordre social. C'est bien loin de ce que je pensais à une époque. La police discrimine. La pratique du contrôle au faciès montre qu'elle est raciste. Lorsqu'on fouille dans l'histoire de la police, on voit que ça remonte au temps de l'esclavage avec le code noir. C'était un outil de la police qui permettait de maintenir les Africains en captivité. Illégal et déclaré inconstitutionnel, ce code a été la base de l'asservissement des pauvres et a permis de protéger les esclavagistes. Par la suite, le code de l'indigénat, qui puise ses sources dans le code noir, a joué le même rôle. Et aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a plus de code, mais des textes de loi sont votés et des circulaires sont mis en place pour continuer à cataloguer, à discriminer et à dominer un certain type de population. Ce sont des lois d'exception pour une catégorie donnée. Ce que nous revendiquons aujourd'hui, au nom de toutes les familles, c'est l'égalité. L'égalité de traitement juridique surtout, mais aussi médiatique. L'égalité à tous les niveaux. On veut que toutes les discriminations disparaissent. À l'école, pour l'accès au logement, pour les questions de l'emploi, etc. Encore une fois, ça peut sembler idéaliste, mais on y a cru. On s'imaginait que la France des droits de l'homme l'était vraiment. Jusqu'à ce qu'on réalise que c'est du vent, de belles paroles sans fond. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en France, le droit commun ne s'applique pas à tout le monde de la même manière, que riches et pauvres n'ont pas les mêmes droits face à la justice. C'est malheureux et je suis dégoûtée d'en arriver à cette conclusion.
Là, tu dis que tu as déchanté en découvrant le fonctionnement de la police, mais j'imagine que c'est pareil avec la justice.
C'est encore pire avec la justice.
Donc tu as été confronté à cette situation pour la première fois. mais j'imagine que toutes les familles passent par le même cheminement. Au départ, elles pensent que naturellement, une justice va être rendue, elles finissent toujours dans la déception.
Avec la police, c'était pas une véritable surprise, dans la mesure où on le sait que ce sont des individus, de simples mortels qui peuvent commettre des erreurs et être corruptibles. Ils sont faillibles, comme n'importe quel mortel. En revanche, on voyait la justice plus grande, comme une chose portée par toute la population, un outil de la société qui n'était ni faillible ni corruptible. Mais à partir du moment où tu te rends compte que si les justiciables sont des policiers, la justice ne fonctionne plus, tu te demandes ce qu'il faut faire et comment le faire. Parce qu'on veut empêcher les policiers de récidiver, on redoute de nouvelles victimes si on ne fait rien. On dit stop, les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Leur fonction ne doit plus leur permettre de commettre des crimes ou des délits sans devoir rendre de compte. Ce que je dis peut paraître naïf, mais on était dans notre bulle, car on pensait que tout fonctionnait de manière impartiale. Ce n'est pas le cas.
Et alors, qu'est-ce que tu penses des stratégies de rupture plus frontales qui consistent à ne pas coopérer avec la justice, à la discréditer, en dénonçant son racisme, par exemple ? Discours de rupture qui dénonce le système serait peut-être plus fédérateur.
Effectivement, il faut arrêter la langue de bois et le politiquement correct. Mais en même temps, ce discours, tu ne peux pas le tenir à une famille qui viendrait d'être touchée et qui croit encore en la justice, qui a encore des illusions. Il faut un certain temps avant d'en arriver à la conclusion que l'État est raciste. Il ne condamne pas sa police, même lorsqu'elle tue. Il n'y a pas vraiment d'enquête, parce que des policiers qui enquêtent sur eux-mêmes, on sait ce que ça donne. On dit qu'il existe différents corps de police, mais c'est faux. Il s'agit d'un même corps. Une enquête de l'IGS, par exemple, ressemble plus à une conversation entre copains au bar qu'à autre chose. Les enquêteurs ne relèvent pas les incohérences. Ils se couvrent, ils s'entraident. C'est une forme de connivence qui parfois existe même entre les policiers, les juges et les avocats, comme on l'a vu dans l'affaire à Jimmy. Tu ne peux rien faire dans ce système, mais on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec, de suivre la procédure et ses lois, étape après étape, jusqu'à la fin. On le fait pour la forme, mais on sait qu'on n'obtiendra rien. La stratégie de la langue de bois, toutes les familles l'ont utilisée, certaines organisations aussi. Mais ça n'avance à rien de caresser l'État et les magistrats dans le sens du poil. À l'inverse, il y a la stratégie frontale, qui consiste à accuser l'État d'accorder systématiquement l'impunité aux policiers, d'être complice de ces crimes et d'avoir le sang de nos frères et sœurs sur les mains. Aucune de ces stratégies n'a fonctionné. Rien n'a mené à une condamnation à la hauteur du crime commis.
Voilà, c'est donc un extrait de ce livre qui vient de paraître aujourd'hui même, qui s'appelle « Permis de tuer ». Et ce qui est remarquable, c'est que cet extrait a été publié sur un site qui s'appelle Jeff Clack, G-E-F-K-L-A-K. Et Jeff Clack, c'est destiné à être une revue papier qui doit sortir prochainement, qui doit être une grosse revue dans le genre Z, par exemple pour ceux qui connaissent. Vu le temps qui nous est imparti, je pense qu'une petite pause musicale et puis après les annonces, je crois,
tout
parce que on est en avance. C'est pas beau,
c'est
ça?
C'est pas magnifique.
Allez, un peu de musique gay après tout ça, toutes ces horreurs.
Switch it in the kitchen. I know she.
Et dans quelques annonces pour terminer l'émission, je m'étouffe mais je continue. On vous rappelle donc que c'est à deux pas d'ici, ça se passe autour de la zone humide du Testé, que c'est en Letarn, et que là-bas, quand on massacre pas la nature, on massacre les gens qui s'enterrent, les gens qui se mettent dans les arbres, les gens qui se mettent en général devant les gardes mobiles. Donc il y a un numéro, il y a un nouveau numéro pour aller rejoindre le Testé, pas que, mais le numéro je vous le donne tout de suite, c'est le 06 48 64 04 22 06 48 64 04 22. Et puis demain, si vous écoutez la rediff, si jamais il y a rediff, et ben ça sera trop tard parce que demain, vendredi 14, il y a un départ groupé en vélo à 15h30 de la place du Capitole parce que samedi, il y a réoccupation massive de la zone humide du Testé dans le Tarn où le barrage ne se fera pas, on l'espère.
Et voilà, et on rappelle aussi que pour le Testé en tout cas, le conseil général d'Albi est occupé devant et à l'intérieur parfois quand on se fait pas virer à coups de gaz lacrymo, et que une occupation du CG se déroule, du conseil général donc pardon, se déroule également à Toulouse, rue Daniel Casanova, mais ça n'a rien à voir, enfin rien à voir avec le Testé.
Ouais.
C'est concernant les réformes des jeunes majeurs étrangers qui sont pris en charge par les maisons de l'enfance jusqu'à 21 ans normalement, mais qui est en train de passer jusqu'à 19 ans. Et du coup, tous les jeunes qui sont entre 19 et 21 ans, jeunes étrangers, qui sont pris en charge par les maisons de l'enfance, sont mis à la rue. Donc il y a une occupation H24 devant le conseil général rue Daniel Casanova, à côté de la chapelle si vous connaissez. C'est une occupation qui a été initiée par les syndicats des travailleurs et travailleuses sociaux. Et voilà, vous pouvez aller les rejoindre évidemment. Dans les annonces, samedi 13 septembre à 16h aura lieu une manif de soutien au peuple palestinien. Cette manif, le rendez-vous, c'est au métro du Mirail, samedi 13 septembre.
Au métro Rennery. Il y a deux métros au Mirail, c'est au métro Rennery.
C'est au métro ouais. Rennery, pas yes. Université.
C'est à l'université, ils disent
Moi, j'avais lu Mirail.
D'accord.
Université.
Ouais, okay, si parce que Rennery. La place étant au métro Rennery, ça m'étonne. Ok. Bon.
Voilà, et donc c'est donc samedi 16h, 13 septembre. Et puis mardi 16 septembre, réunion d'information pour l'association Genepi. On en a parlé tout à l'heure dans le journal de détention de Inaya. Donc la réunion d'information, il y en aura plusieurs, on rappellera aussi jeudi prochain pour les suivantes, mais la prochaine en tout cas est la première, c'est mardi 16 septembre à 17h à l'université Capitole Arsenal dans la salle J005, donc mardi 16 à 17h.
Donc c'est Brutal qui se termine, donc la rediffusion... C'est le vendredi de 17h à 18h.
Ça sera sur le site de Canal, l'émission, de toute façon.
En plus.
Podcastable, écoutable et toc.
À tout moment de la semaine, le jour comme la nuit, donc c'est magnifique. Et malgré tout, vous pouvez nous écrire d'ici la semaine prochaine ou quand vous en avez envie. Donc vous pouvez nous envoyer un courrier à Bruit de Tôle, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31 400 Toulouse, ou nous envoyer un mail à Bruit de Tôle, c'est bruit avec un S, de Tôle, D-E-T-O-L-O-S, @no-log.org. À la semaine prochaine.
Bon courage à ceux qui sont à l'intérieur.
Et à ceux qui sont à l'extérieur aussi, parce que c'est guet de tous les côtés.
Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé, partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent, se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie? Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur, partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et À nous la liberté, À nous la liberté.